Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Che fai? Credici?
Ma sta tappando, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, vous qui aimez tant être dupé, berné, manipulé, voire modelé, en tant que spectateur bien sûr, bonjour et bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cathy. Salut Cathy.
Bonjour Sophie, bonjour Sylvain.
Et pour la première fois dans Cinémascope, Lisa Marie, bonjour.
Bonjour Sophie.
Et évidemment... Sylvain à la réalisation, salut Sylvain.
Salut.
Puis on aura aussi, par la magie du différé, Olivier qui a fait son exercice hebdomadaire de film jeune public. Au programme donc, de ce Cinémascope, on parlera de May December, de Wallace et Gromit, Cœur à modeler, de Scandaleusement vôtre. Et puis avec vous deux, Lisa Marie et Cathy, on évoquera deux films un peu en avant-première. Vous nous expliquerez pourquoi. Nits Island, L'île sans fin, et Le jour où j'ai rencontré ma mère. Et puis on pourra aussi parler en lien avec l'actualité du cinéma de Inch'Allah un fils, pourquoi pas, ou d'Apollonia Apollonia, je ne sais pas si tu l'as vu, puisque c'est le lancement du Printemps du Doc ce soir à l'USAS. Voilà, pas mal de femmes au cinéma, et pour en parler aussi, on commence.
What would make a 36-year-old woman have an affair with a 7th grader?
So good.
What's your relationship like with your kids? How is that relevant?
You're the actress playing my mother.
Look me in the eye and tell me how selfish you are.
You're different than me. You're a modern woman.
Yes, you're different from me, oui. May December de Todd Haynes avec Natalie Portman, Julianne Moore et Charles Melton. Cathy.
Alors c'est tout un programme.
C'est tout un programme, c'est pour ça que je te laisse le soin de tout gentil. Présenter.
C'est gentil. Alors déjà le film revient sur une, enfin librement, hein, parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de différences avec l'histoire originale aussi. Mm-hmm. Donc un fait divers où en 1997 aux États-Unis, une professeure a eu une relation avec un élève âgé à l'époque de 12 ans. Donc elle a fait de la prison, enfin elle a été enceinte, elle a refait de la prison derrière, enfin bref, une histoire comme ça d'amour. Mm-hmm. Entre un très jeune élève et sa prof. Mm-hmm.
Elle a été enceinte, et oui. Puis une nouvelle fois enceinte en prison,
oui.
Et ils se sont mariés.
Ils se sont mariés, exactement. Mm-hmm. Le couple a fini par divorcer en 2019, et malheureusement, elle est décédée des suites d'un cancer. Bon, le film ne va pas jusque-là. En fait, le film raconte l'histoire de ce couple. Alors, le Todd Haynes a fait une reconstitution qui n'est pas totalement fidèle, les personnages ne portent pas le même nom, et puis il y a surtout l'éruption dans la vie de ce couple d'une actrice qui est interprétée par Natalie Portman, qui va interpréter le rôle de cette femme au cinéma et qui arrive dans leur vie et s'imprégner un peu de leur histoire. Ce qu'est leur histoire d'amour, quelle est cette femme, alors là, elle n'est pas prof, mais elle a travaillé et se sont rencontrés dans une animalerie. Alors
oui,
pourquoi
d'ailleurs.
C'est transposé dans une animalerie? C'est peut-être plus sexy de les imaginer faire l'amour dans une réserve que dans une salle de prof, je ne sais pas.
Ah non, pas du tout.
Hein?
Ah, mais pas du tout. Mais qui n'a pas fantasmé sur son prof ou sur sa prof? Il y a quelque chose de très sexy. Enfin bref.
Peut-être que avoir des rapports dans une salle de classe ou dans, je sais pas, dans les toilettes de l'établissement scolaire, c'est moins fun que la réserve de l'animalerie. Ça, je n'ai pas compris. Mais voilà. Et ce qui est super, ce qui est super fort dans le film de Todd Haynes, c'est que bon, déjà Todd Haynes, il a un vrai regard sur la femme et sur les actrices notamment. Donc là, il va mélanger subtilement les deux, puisqu'on va retrouver l'histoire d'une femme que l'on découvre petit à petit. C'est vrai qu'elle n'est pas forcément très sympathique. On s'y attache. On a un petit peu du mal à s'y attacher quand même. Elle a quand même quelques petites répliques vis-à-vis de sa fille notamment. Qui est assez terrible.
Et tout ça avec une sensation d'innocence, enfin de... Oui. Elle y va, elle est...
Mais avec le sourire quand
avec
même.
Avec le sourire,
hein.
Elle
dit des trucs assez terribles, avec le sourire. Ouais. Donc c'est... Voilà, donc on découvre ce personnage-là qui est cette mère de famille, avec ce passif et cette histoire d'amour avec ce jeune qui, bon, là, quand on prend le film, lui, il a 36 ans, quoi. Donc ils ont quand même passé plus de 20 ans ensemble, avec des enfants qui sont prêts à partir à la fac. Et oui.
Non, mais c'est intéressant d'ailleurs le timing, c'est vraiment
oui.
ça. Ça se clôt, le film se clôt en mai, le jour de la remise des diplômes où les enfants s'en vont et où.
Ouais. Voilà. Sachant que May-December fait écho avec la différence d'âge, parce que apparemment c'est une expression qu'on dit en anglais pour dire qu'il y a une grosse différence d'âge entre dans le couple.
Dans le couple.
Voilà. Oui. Et donc, comme Todd Haynes, c'est vraiment quelqu'un qui a, de par ses précédents films, mis vraiment et la femme avec tout ce qu'elle a de subtilité dans le cinéma, et des actrices aussi comme Julianne Moore avec qui il travaille pour la cinquième fois. Première fois pour Nathalie Portman, mais bon, voilà, il y a une mise en lumière de ces actrices incroyables dans le film et dans ces personnages qui se craquellent, en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on voit toutes les failles. On a la partie visible de l'iceberg, c'est une histoire d'amour. Ok, incroyable, pourquoi on ne les a pas laissés s'aimer bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, l'amour est aveugle et... Et sourd et tout ce qu'on veut, bon bref. Et puis finalement, plus on avance dans l'histoire, plus on voit que quand même les personnages sont fragiles, sont pas forcément super heureux. Et puis on a ce personnage de Nathalie Portman qui débarque dans leur vie, qui fait, elle aussi, au début, on s'y attache un peu par rapport à son intention. Puis on voit bien qu'elle les manipule plus ou moins aussi. Et donc, ça rend un film assez... avec lequel on a une distance, très vite quand même, malgré tout. On ne s'attache pas forcément à ces personnages, mais je pense pas que l'intention de Todd Haynes soit qu'on s'y attache. Hein. C'est juste qu'il sait particulièrement bien traiter les failles. De l'espèce humaine et que ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité, et voilà. Joue avec ça.
C'est vraiment ça, c'est tout un jeu de réalité déformée, voire, enfin, moi j'avais en tête le terme diffraction, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en face du miroir. Il y a tout un jeu de miroir, d'ailleurs enfin, mise en scène aussi, un peu presque classique, mais là en fait on n'est jamais en face. Enfin, pour moi, c'est toujours un peu biaisé. C'est comme la réalité qu'on essaie, à l'instar de cette actrice qui arrive dans ce foyer, où elle essaie d'avoir des éléments pour recréer petite touche par petite touche cette réalité, pour essayer de s'en imprégner. Mais en fait, on n'y arrive jamais. C'est toujours un peu par le côté. C'est toujours un peu à la marge. C'est toujours un peu déformé. On n'est jamais face... J'ai l'impression, enfin en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue en tant que spectatrice, on n'est jamais face à une réalité. En fait, tout est déformé ou à demi, ou alors on sent que c'est pas tout à fait ça. Et c'est, enfin pour moi c'est assez vertigineux quoi. C'est complètement insaisissable.
Oui.
C'est complètement insaisissable. Il y a toujours cette distance, même dans le son. J'ai trouvé qu'il y avait le son, enfin tout résonne avec voilà, justement, une mise un peu à distance, qui fait que pour un film qui traite de, je trouve, au départ, enfin, l'histoire dans l'histoire, qui est l'histoire d'origine, hein, que tu as rappelé, de cette passion amoureuse entre ces deux personnes de 20 ans d'âge différent. Cette passion-là, finalement, elle est complètement dépassionnée, en fait. Mmh. C'est tellement distant que... c'est un film, pour moi, absolument insaisissable.
Mmh. Oui, c'est ça.
Avec des personnages insaisissables.
Oui, avec des personnages qui ont une vraie fragilité et qu'on voit, on voit à l'écran se révéler, hein, vraiment au fur et à mesure que l'on avance dans le film. Et le spectateur est forcément déstabilisé par ça. C'est une volonté, quand même, je pense, du réalisateur de nous déstabiliser, quoi, et de nous mettre dans une position un peu instable. Mmh. Et il y arrive particulièrement bien, et c'est vrai que c'est un film effectivement à voir quand on a envie d'être un peu titillé quand on va au cinéma.
Et oui. Mmh. Ah ouais. Il y a quand même un personnage, simplement le personnage masculin,
oui,
qui lui, au contraire, hein, il y a de la tendresse, hein, il est peut-être...
Mais il est assez insaisissable, hein.
Aussi,
parce
mais
que,
plus
parce
aimable peut-être.
Oui, peut-être plus aimable, mais en tout cas, il y aurait tellement de... Parce que je suis en train de repenser à 50 000 scènes du film, et je me dis, il y a un moment, il dit, il faut absolument que vous arriviez à retranscrire, quand il parle à l'actrice, il faut absolument que vous arriviez à retranscrire notre histoire d'amour, enfin, pour que les gens comprennent, parce que, effectivement, personne n'a voulu comprendre que c'était une histoire d'amour. Et donc on se dit, c'est une vérité, et puis on voit qu'il textote avec quelqu'un comme s'il avait envie d'autre chose et qu'il n'était pas foncièrement équilibré et heureux dans sa vie. Waouh, donc ça...
C'est ça. toujours de la mise à distance, pas de côté, là où on pense, en
on
fait,
que
c'est
stable. On
est sur
le fil à chaque fois, et puis vraiment ce duo, ces deux actrices, hein, Julianne Moore et Natalie Portman, elles sont incroyables, et ces scènes où elles se font face, où elles échangent de manière très intelligente aussi sur l'écriture, les dialogues. Waouh.
Ouais. On vous conseille, même si c'est déstabilisant. Et puis aussi, il y a quand même un peu de... Il y a de l'humour, je trouve, aussi.
Oui, il y a noir, des fois.
Ouais.
Et puis, juste une parenthèse sur la bande originale du film, qui reprend une autre... une autre partie,
là aussi.
De film de Joseph Losey, qui date de 71, et une musique écrite par
Michel
Legrand.
Là aussi, une question de miroir. On réinterprète. Mais pas... Et musique qui est reprise par Faites entrer l'accusé, ce qui est qui est aussi perturbant pour celles et ceux qui regardent la télé, qui regardent cette émission.
Ça te pèse aussi sur les scènes, hein, vraiment cette réutilisation là, qui revient à chaque fois de la musique.
Allez vous faire votre propre idée avec May December, donc un film à voir au navire. En deuxième film, c'est Olivier qui poursuit son travail de service jeune public et qui semble, lui, s'être bien amusé.
Voilà ces gros mythes, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir d'avoir... Le son de cette chronique dédiée à deux épisodes de Voilà ces gros mythes que nous pouvons nous payer le plaisir de voir au navire. Samedi 23, ce samedi, dimanche 24, ce dimanche à 15h pour la modique somme de 4 euros. Les deux épisodes, se sont rasés de près. Klaus Schew et Sacré Pétrin, A Matter of Love and Death, une question de vie ou de mort, avec le petit jeu de mots, c'est au lieu de life, c'est love and death. Alors le premier rasé de près, c'est un court métrage de 1995, c'est encore une fois le troisième de la série, et il obtiendra l'Oscar du meilleur court métrage d'animation en 1996. Le deuxième, c'est Un sacré pétrin. C'est celui-là qui s'intitule A Matter of Love and Death, parce que love, ça veut dire une miche de pain. Un sacré pétrin, donc c'est l'épisode le cinquième, en 2008. Alors, c'est en deux épisodes tout le plaisir de voilà ces gros mythes. D'abord, à chaque fois, un vrai film, c'est-à-dire fabriqué comme un film de genre, un thriller. Vous avez l'histoire d'un tueur en série de moutons dans Rasé de près. Ce tueur en série, il faut le retrouver. Les moutons disparaissent. On aura bientôt plus de laine. Et c'est l'occasion de faire apparaître le personnage du mouton en général et plus particulièrement, c'est la première apparition de Shaun the Sheep. Évidemment, le seul mouton qui doit enfiler un pullover à ma connaissance. Donc, un thriller, un polar qui est suivi dans la presse parce que Wallace lit le journal tous les jours et on peut suivre l'intrigue dans les unes du journal que lisent d'ailleurs Wallace et Gromit. Un thriller, un court-métrage filmique donc classique et évidemment une réalisation, faut-il le rappeler, Nick Park, c'est le réalisateur dans les studios Aardman à Bristol, c'est le réalisateur de Chicken Run, de Cro-Man, la tribu de Doug, de Shaun the Sheep, je viens d'en parler, donc on voit tout de suite le style d'animation 3D, extrêmement fouillé, voilà, c'est un inventeur, donc il invente des tas de machines, dont celle à tondre les moutons, extraire, faire filer la laine, tricoter, etc., tout ça en une seule grosse machine. Bon, c'est une vraie petite merveille. Tous les objets du quotidien, table, chaise, la caisse du chien, enfin, tout est parfait, évidemment. Et puis pour les amateurs, évidemment, des références filmiques permanente, c'est-à-dire non seulement il y a une idée par plan, une multitude d'idées par séquence, mais en même temps c'est toujours référencé aux classiques du cinéma, de l'animation, de voilà, bon bref, c'est ce qui fait de voilà ces gros mythes, les icônes et les légendes qui sont devenues en compagnie, à mon avis d'ailleurs, de Shaun the Sheep qui est vraiment un bonhomme qui habite nos imaginaires depuis qu'il est arrivé sur les écrans. Donc ça a un autre avantage. Moi j'ai vu ces épisodes donc au navire mercredi après-midi avec un public d'enfants et ça rigole quoi. Les parents rigolent aussi. Et je crois qu'on peut, vous savez, il y a l'expression de 7 à 77 ans, là c'est tranquille, de 5 à 85 à 95 ans, qu'on peut trouver à se nourrir là-dedans. Voilà, je sais pas s'il est bien utile que j'en dise plus, hein, j'ai juste vraiment envie de vous inviter à voir ça sur grand écran. C'est ces deux épisodes qui occupent la totalité, c'est à peu près une heure, donc c'est samedi 23, dimanche 24 à 15h au navire. Si vous pouvez, bon, vous savez que je l'apprécie, le romancier Frédéric Poussard sera au Salon du Livre des Vents dimanche 24, alors vous allez le voir, il vous signe le bouquin le matin, puis l'après-midi vous allez au navire voir, voilà, c'est gros mythe. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon week-end.
Bien placé, Olivier. Le festival du livre des Vents, effectivement, dimanche. Mais vous pourrez aussi aller voir un autre film britannique, peut-être un petit bonbon scandaleusement vôtre.
Mister, I have a plan.
You're a fool of
a... What would your husband think?
My husband isn't alive, Ray, so he's not thinking a great deal.
I like you, Rose.
I hate her!
I'm going to lose her.
We're not standing for it.
I've had one now.
Everyone is going to know.
Ouh, ça sonne comme une comédie policière enjouée. Scandaleusement vôtre de T.H. Sharrock avec Olivia Colman. Alors, Cathy, tu es allée voir Scandaleusement Vôtre.
Oui, oui, oui. Et vous savez que j'aime particulièrement le cinéma anglais et que là, on est dans l'esprit des Anglais, c'est-à-dire qu'on aime mélanger un peu les genres et surtout avoir un humour dont on tombe forcément amoureux quand on regarde les comédies anglaises. Et là, c'est une histoire... c'est tiré d'une histoire vraie. Là aussi, on est sur un duo d'actrices formidables. Donc, tu l'as dit, Olivia Colman et Jessie Buckley. L'histoire, c'est deux voisines ennemies dans les années 20 qui se sont écrites des lettres plutôt ordurières avec la saveur de pouvoir vraiment dire des gros mots, mais alors on y va et puis on invente des trucs s'il faut. Donc l'histoire reprend, le film reprend cette histoire de voisine ennemie. Sauf que là, on noie un peu le poisson parce qu'on ne sait pas, on sait qu'elles sont, elles s'entendent pas, ces deux, mais il y en a une qui reçoit des lettres et qui les lui envoie, c'est toute l'enquête qui va être menée par un personnage féminin. Alors, Glady Moss, c'est un personnage qui a d'enquêtrice, donc de policière qui a réellement existé également. Qui elle évidemment est obligée d'afficher sa crédibilité, sa légitimité envers ses collègues masculins qui évidemment sont comme à l'époque et même comme c'est certainement encore souvent un peu macho et qu'elle n'y connaît rien, qu'elle ne sait pas faire les enquêtes, c'est pas parce que son père a été inspecteur qu'elle a la même veine, enfin bon bref. Donc...
Parce que juste je précise, oui. Tu as dit dans les années 20, mais tu es une femme, je suis désolée, de ton époque, tu es née le siècle dernier,
oui.
Et donc c'est les années 20 du siècle dernier.
Du siècle dernier, ouais, tout à fait. Mais donc il y a cette petite connotation aussi féministe dans le film, hein, avec cette inspectrice qui va devoir faire ses preuves et qui va mener l'enquête, elle, en parallèle avec de savoureuses, savoureux personnages féminins qui sont des amis du quartier et qui se disent non, il faut absolument qu'on défende. Alors j'ai plus son nom dans le film, mais celle qui est interprétée par Jessie Buckley, cette jeune femme va être incriminée parce qu'effectivement elle a une vie un petit peu dissolue, qu'elle a un langage un peu de poissonnière. Oui. Donc forcément, comme l'autre personnage reçoit des lettres, c'est forcément elle qui les a écrites. Quoi, voilà. Et l'idée, c'est de savoir qui les a écrits réellement et donc était là-dessus. Donc il y a tout un petit groupe d'amis qui vont s'engager auprès de l'inspectrice pour faire tomber le masque et découvrir qui est réellement derrière ces lettres. Donc c'est savoureux, c'est drôle, c'est bien fait. Enfin, la reconstitution, voilà, années 20 est plutôt sympa et on passe un très bon moment à voir ce film. Voilà, c'est tout ce que je pourrais en dire.
Eh bien, allez le voir.
Olivia Colman, c'est toujours un énorme plaisir de la voir à l'écran parce qu'elle arrive à interpréter, à incarner des femmes tellement différentes. Enfin, voilà, je pense de la reine d'Angleterre dans The Crown à la reine dans La Favorite ou ce personnage-là qui est quand même assez barré aussi. C'est vraiment... Je ne dis pas que la reine d'Angleterre est débarrée.
On te laisse avec tes propos.
Non, c'est plus, je pensais plus au personnage dans La Favorite.
Scandaleusement Vôtre, donc c'est à voir à Aubenas et à Privas. Puis maintenant, on va parler de deux films un petit peu en amont de leur sortie avec Lisa Marie et avec toi, Cathy. On va parler d'un premier qui est un documentaire.
I can see a couple of trees. It's raining.
It is minus 14 outside. I live in Canada.
That's cool.
Southern Finland is locked down from the rest of the country.
There's not a lot going on here except me and my computer.
It's a hot night. I'm at my homework desk.
Hopefully you cannot hear my child crying. He's asleep.
give me your definition of the term in real life.
In real life. Ouais, je pense que là, on est au cœur du sujet. Nits Island, l'île sans fin. Alors, pourquoi êtes-vous venu parler de ce film, toutes les deux, Lisa Marie?
C'est un film qui a été... qui faisait partie d'un choix de film qui allait être présenté au 15-25. Et donc...
Au comité 15-25, donc au public, voilà, 15-25.
Ouais. 15-25, et du coup, il faisait partie des différents films qui étaient proposés.
La sélection des trois films, c'est ça? De trois films sélectionnés.
Alors non, là, c'est une autre sélection.
Oh là, mon Dieu, ça m'embrouille.
Une sélection, c'est plus au niveau national, où il existe un comité 15-25, c'est-à-dire ce sont des gens qui proposent une sélection de films pour que les salles puissent les programmer avec une orientation plutôt jeune, public jeune, en disant, ben voilà, ce film, ça peut être un film que des 15-25 ans et plus, évidemment, peuvent voir, quoi. Donc, c'est une éditorialisation un peu spéciale dans les salles.
Pardon, donc j'ai été coupée. Et donc, ce film, Lisa Marie, Nits Island, l'île sans fin, vous l'avez choisi?
Ce film, il est sorti du lot, parce que c'est un vrai parti pris. Ça parle de ces trois réalisateurs, en fait, qui ont décidé de passer 963 heures dans un jeu vidéo, ce qui est absolument conséquent. Et ils ont décidé de partir à la rencontre des autres joueurs de ce jeu vidéo, qui est un monde ouvert, un monde post-apocalyptique, et pour essayer d'apprendre un peu plus à connaître ces joueurs, qui sont là depuis des milliers d'heures, plusieurs années à jouer à ce jeu. C'est une partie de leur vie qui est énorme, qui, on peut le voir dans ce documentaire, passe même au-dessus de leur vie, on peut dire, irréelle, enfin IRL, donc dans la vraie vie, URL pour en ligne. Et on l'entend dans l'extrait qu'on a mis juste avant, il y a une des joueuses qui a dit « J'espère que vous n'entendez pas mon enfant pleurer ». Et c'est... j'ai vraiment vécu ce film comme un film d'horreur, en fait, ce documentaire. C'était, c'est un sujet, les jeux vidéo, qui est encore... en tout cas, l'usage des jeux vidéo, c'est encore assez tabou aujourd'hui comme sujet, parce qu'on ne sait pas trop où se placer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est encore un débat très présent aujourd'hui.
Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tu veux dire par rapport à la réalité? Est-ce qu'on s'enferme dans une bulle irréelle, c'est ça?
C'est ça, il y a des, à la fois pour certaines personnes, les jeux vidéo a un côté très positif socialement, ce qui permet de faire des rencontres pour des gens qui peuvent pas forcément faire des rencontres ou qui ont des difficultés socialement à être présents. Et en parallèle, ça peut vraiment nous enfermer dans un monde qui n'est pas la vraie vie et nous déconnecter en fait des vraies choses, des choses concrètes finalement. Et oui, ce film, c'était vraiment une étude de toutes ces différentes personnes qui jouent à ces jeux. Et on peut voir à quel point ça a impacté leur vie. Il y en a qui n'arrivent plus à rêver, qui rêvent que de ce jeu. Ils ont l'impression que ce jeu prenne une partie de leur vie, mais monumentale. Ils n'ont plus d'imagination. Ils ne pensent qu'à ça, tout le temps. Et ça prend de la place dans leur vie de famille, dans leur vie de tous les jours. C'est très, très fort. Et je trouve que le proposer au 15-25, justement parce que les nouvelles technologies, ça fait toujours débat. Les jeux vidéo, voilà, c'est encore un débat actuel, ça sera un débat futur. Et il y aura d'autres technologies qui feront débat plus tard. Et c'était, je trouvais ça intéressant comme parti pris de montrer un film comme ça qui esthétiquement n'est pas très très intéressant parce que c'est juste un jeu vidéo.
C'est la forme dont il faut parler
aussi. C'est la forme qui est très très particulière où... pour les connaisseurs justement de jeux vidéo, on dirait des lives, des sortes de comment dire, d'émissions de jeux vidéo où on filme que le jeu vidéo, donc pas les personnes qui jouent. Donc on est immiscé dans ce jeu vidéo à travers l'écran de ces trois réalisateurs. Et donc du coup, ça, c'est assez spécial parce que c'est pas ce dont on est habitué quand on regarde des films. Oui. On attend des beaux plans, on attend de la vraie vie finalement et tout est...
C'est un vrai parti pris qui nous enferme avec les joueurs dans ce jeu. Et donc ce film, pardon, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, vas-y, je t'en prie.
Ce film sera projeté à partir de quand ? Est-ce qu'il y a une séance particulière ?
Alors non, ça c'est un film que les salles peuvent programmer, je crois, à partir du 17 avril. Mmh. Et moi j'y pense quand même pas mal par rapport au Rencontre des cinémas d'Europe, parce que on voudrait, la médiathèque intercommunale Jean Ferrat va se doter d'un fonds assez important de jeux vidéo, et ça peut être l'occasion de faire une passerelle entre ce film et leur intention de développer un peu le jeu vidéo pour pouvoir aussi parler plus largement de ce que ça implique, voilà, et ce que dénonce entre guillemets le film. Et pourquoi pas recevoir les jeunes réalisateurs, puisque c'est un premier film pour eux. Mmh. Donc ça me paraît intéressant. Donc, on est très en amont, mais ça peut être bien de quand même d'en parler.
Mmh. Nits Island, l'île sans fin, donc, qui sortira le 17 avril. Un autre film qui sort également le 17 avril, c'est Le jour où j'ai rencontré ma mère. Là, on n'est plus dans le documentaire, on est dans la fiction, un film de Zara Dwinger. Alors, qui veut parler ? Qui de vous deux veut parler de ce film ?
Je vais laisser Lisa-Marie parler du film. Juste que, pour recontextualiser le fait que c'est un film qui était programmé en avant-première aux précédentes rencontres des cinémas d'Europe, que nous avons un partenariat avec le service culturel de la ville d'Aubenas dans le cadre du dispositif Bouche de l'art. Donc, on a réuni des jeunes pour visionner des films, des rencontres, emporter un pendant les rencontres. Celui qui avait été choisi, c'était Vincent doit mourir, en présence du réalisateur, et qu'on a fait une deuxième session de travail avec eux sur trois autres films de la sélection des rencontres, et que c'est celui-ci, Le jour où j'ai rencontré ma mère, qui sera porté le 17 avril au cinéma Le Navire à 14h30 en séance spéciale, ouverte et gratuite pour tous les jeunes d'Aubenas. Voilà, mais je laisse Lisa-Marie présenter le film.
Voilà, assez rapidement, puisqu'on arrive à la fin de l'émission.
Et ben, du coup, c'est un film qui a été choisi dans le cadre du jury Bouche de l'art, comme l'a dit Cathy. On avait choix entre trois films qui ont été présentés durant les rencontres des cinémas d'Europe. Un film qui s'appelle Oli, un film qui s'appelle Scrapper, et du coup, Le jour où j'ai rencontré ma mère. Mm-hmm. Donc on a pu en débattre ensemble. C'est ce qu'on appelle un road movie. Donc c'est un film où on suit l'histoire d'une mère et de sa fille qui partent en voiture et qui partent loin, à travers l'Europe, en passant par la France, la Pologne, tout ça. Et c'est vraiment un film qu'on a trouvé intéressant pour sa manière, son esthétisme déjà. C'est un premier film et c'est déjà très marqué. Par rapport à l'esthétisme, je pourrais même dire qu'on a apprécié comment a été peinturée la relation entre la mère et la fille, qui est très particulière, la fille étant en foyer et la mère ayant disparu du jour au lendemain, laissant sa fille et puis réapparaît tout d'un coup pour l'emmener loin en Pologne. Et c'est une relation, voilà, on a l'impression presque que la fille prend la place de la mère finalement dans la protection de la mère, de son image en tout cas qu'elle a de sa mère, et on est vraiment à travers ses yeux dans toute la fantaisie d'une enfant de 10 ans, quoi.
Un film donc à voir le 17 avril, mercredi 17 avril, dans le cadre de Bouche de l'art, à 14h30, donc gratuit pour les 12-15 ans, 12-25.
Oui.
Ouais. Et puis qui sera à l'affiche après. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est bientôt à la fin de cette émission. Quelques mots quand même, parce qu'il y a il y a pas mal d'actualités dans l'agenda. D'abord, c'est le lancement ce soir du Printemps du documentaire avec le film Apollonia, Apollonia, de Léa Globe. J'en ai parlé dans l'agenda, mais je ne sais pas si tu veux dire un mot, ou peut-être du Printemps du Doc.
Oui, plutôt le Printemps du Doc, c'est une opération que l'on met en place avec les écrans de Romardèche. Donc il va y avoir plein de séances sur toute la région. Nous avons reprogrammé Apollonia, qui a été découvert avec mais seulement trois séances en avant-première là, pendant les Rencontres des cinémas d'Europe, et c'est un film documentaire qu'on aime beaucoup, hein, voilà, qui sera donc présenté ce soir à 20h30 à la salle de l'USAS, et qui revient sur le parcours, puisque la réalisatrice a filmé pendant plus de 10 ans la naissance d'une artiste qui s'appelle Apollonia Sokol. Voilà. Et ensuite, il y aura deux autres programmations, le 28 ou le 29 mars, j'ai un doute, avec État Limite, à la présence du réalisateur aussi, enfin en présence du réalisateur Nicolas Parisi. Et puis, il y aura le 2 avril, La mère de tous les mensonges, en présence d'une journaliste reporter qui s'appelle Catherine Ruel. Il y aura à chaque fois un petit verre à boire à l'issue de la projection.
Tu as les mots qu'il faut.
On aime la convivialité, vous le savez.
Et oui, convivialité et qualité, les deux maîtres mots des événements made in Maison de l'Image. Mmh. Donc c'est le printemps du documentaire, donc dès ce soir à 20h30. Et puis aussi, je dis juste un mot, dans le cadre de Un livre, un film, il y aura, donc porté toujours par la Maison de l'Image à la médiathèque de Tueil ce dimanche, donc ce sera Arrête avec tes mensonges, un film d'Olivier Payon, adapté du roman de Philippe Besson, donc ça ce sera dimanche à Tueil. Bien sûr, il y a toujours le festival du court-métrage, le printemps du cinéma qui commence le 24, c'est 5 euros pour tous, l'exorciste que vous avez, qui a été projeté hier le 21, jeudi, mais qui est toujours à l'affiche lundi et mardi, et puis Inch'Allah un fils, qui est projeté dans le cadre au cinéma pour les droits humains, le festival de cinéma d'Amnesty International, et qui sera notamment le 29 mars à Saint-Paul-le-Jeune.
Juste, je pense que je n'ai pas dit le bon nom du réalisateur qui va venir, ça me pose un petit problème psychologique, donc c'est Nicolas Peduzzi.
Peduzzi pour État Limite.
Voilà, parce que Nicolas Parisi, c'est aussi un réalisateur, mais c'est pas lui.
Nicolas Peduzzi, donc pour État Limite, un documentaire sur la situation de l'hôpital et de l'hôpital psychiatrique.
Oui, avec surtout un médecin qu'on suit particulièrement.
Merci beaucoup toutes les deux d'avoir été là. Merci Olivier d'avoir enregistré ta petite pastille sur Voilà c'est Gromit. Et merci beaucoup Sylvain d'avoir réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de cinéma. Ciao.
Voilà.